Je vous invite à prier pour le partage de la parole.
Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons ce matin aussi nous tourner vers ta parole, Seigneur, et nous laisser interpeller par elle, Seigneur. Que tu puisses ce matin, Seigneur, bénir ce partage, Seigneur, ouvrir nos cœurs et nous conduire, Seigneur, personnellement, chacun dans les voies que tu as pour nous, Seigneur. C'est notre prière. Bénis-nous, Père. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et je vous invite à tourner l'écriture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. On va prendre deux textes bibliques, en particulier dans l'écriture ce matin. Matthieu, chapitre 17. On va prendre le verset 1. Matthieu 17. Verset 1, on y lit ceci. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. » Et on va prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, c'est la même histoire, simplement racontée avec quelques détails différents et supplémentaires. Luc, chapitre 9, on va au verset 27. Luc, chapitre 9, verset 27. Voilà ce que donc dit Jésus. « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. Voilà une histoire dans la Bible. Et si vous voulez, si je devais résumer le message que j'ai sur le cœur, qui est plutôt une parole, je dirais, probablement prophétique à l'Église, à chacun de nous peut-être en particulier, c'est finalement que nous sommes invité par le Seigneur à tout simplement l'écouter. Écoutez-le. Hein. Vraiment, c'est une pensée qui m'a imprégné. Je dirais, je n'arrive pas à sortir de cette simple et unique pensée. Écoutez-le. La prédication du Père aux disciples, vous êtes d'accord avec moi, est extrêmement courte. Les voilà qui montent sur une montagne très haute à la recherche du Seigneur, en compagnie de Jésus. Jésus les a prévenus que plusieurs d'entre eux allaient voir le royaume de Dieu, et il est assez évident que face à cette révélation qui leur a été montrée, ces trois hommes ont été en contact direct avec la réalité du royaume de Dieu. Ils ont vu Jésus comme ils ne l'avaient jamais vu, c'est-à-dire dans la gloire. Ils ont vu Élie et Moïse arriver aussi, descendre du ciel et apparaître. Donc imaginez un petit peu, je dirais, l'impact que ça a pu avoir sur la vie de ces disciples-là. Ils ont vu la réalité du royaume de Dieu sous leurs yeux. Et en même temps, la Bible, on l'a lu, nous montre qu'ils étaient au départ un petit peu endormis. Donc ça a commencé par un temps de prière où Jésus priait avec ses trois disciples, et où ses trois disciples étaient tout simplement un peu fatigués, probablement, peut-être par le fait d'avoir monté cette montagne, cette haute montagne. Et puis ils finissent par entendre bien sûr Jésus prier, eux-mêmes prier, ils finissent par être un peu endormis, nous dit l'Écriture. Et puis c'est au moment où ils sont dans cet endormissement-là que la gloire de Dieu descend. C'est magnifique, parce que la gloire de Dieu, elle n'a pas besoin qu'on soit, je dirais, hyper, hyper disponible pour qu'elle se manifeste. Souvent d'ailleurs, Dieu vient nous chercher quand on ne l'attend pas, et gloire à son nom pour cela. Et puis quand cette gloire va se révéler, ils sont endormis. La Bible nous précise qu'ils vont être effrayés quand même, ils vont tomber dans l'effroi. On veut bien le croire. Je ne sais pas si d'un coup on avait quelqu'un à côté de nous qui se met à avoir son visage qui brille comme le soleil, ses vêtements qui blanchissent et qui sont lumineux, ça nous ferait quand même un drôle d'effet, je crois. On serait vraiment perturbés probablement, et certainement un petit peu inquiet à l'intérieur, et peut-être même qu'on aurait peur, et peut-être même que quelques-uns, même dans une église, préféreraient partir en se disant « on ne sait pas ce qui se passe ici ». On prendrait peur. Et c'est vrai que la présence glorieuse du Seigneur peut induire des peurs, des craintes. Et la parole du Seigneur, quand c'est comme ça, elle est toujours là pour aussi nous rassurer. Ne crains pas. Le Seigneur nous veut que du bien. Mais le Père va venir, ce qui est merveilleux, et le Père va rendre témoignage à Jésus devant ses disciples-là. Ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois, ils ne sont pas 50 000. Le Père se déplace pour finalement peu de gens en réalité, peu de personnes, ils ne sont que trois. Mais le Père descend, rend témoignage au Fils, « Celui-ci est mon Fils élu ». On a l'autre texte qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce sont des choses que les disciples avaient déjà quand même comprises. Pierre lui-même, un petit peu auparavant, va rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ce sont des choses qu'ils ont déjà compris, qu'ils ont déjà su dans leur cœur. Mais le Seigneur, j'ai envie de dire, appuie, enfonce le clou, si on peut dire ça comme ça, afin que Jésus soit bel et bien identifié comme le Fils de Dieu. Et là, il l'est manifesté dans la gloire. Et ensuite, il y a cette parole du Père qui est essentielle. « Celui-ci, mon Fils élu, écoutez-le. » Et moi, cette parole de Jésus, enfin du Père, pardon, elle m'interpelle. Si le Père dit à ses disciples, écoutez-le, ça sous-entend quoi, frères et sœurs ? Ça sous-entend qui parle. Et ils entendaient parler Jésus. Mais à mon avis, ça sous-entend tout simplement qu'ils avaient tendance à pas vraiment l'écouter. Le Seigneur ne gaspille pas sa salive. S'il dit à ses disciples, celui-ci, c'est lui, écoutez-le, c'est parce que la tendance naturelle des cœurs, et des cœurs y compris des disciples, c'était d'entendre Jésus, d'accord, probablement, d'être probablement souvent d'accord avec Jésus, mais pas forcément, je dirais, d'être attentif précisément au point de mettre en pratique cette parole donnée par Jésus. Jésus avait, par exemple, déjà annoncé dans le Sermon sur la montagne tout un ensemble de doctrines, tout un ensemble de comportements, de voies, de chemins spirituels du Seigneur, et terminé son discours en disant « Tous ceux qui vont entendre et mettre en pratique ces paroles que je vous dis, alors seront semblables à un sage qui bâtit sur le roc. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un fou qui bâtit sur le sable. » Tous les disciples l'ont entendu. Tous les disciples ont entendu ce sermon sur la montagne qui, dans les grandes lignes, nous donne, je dirais, l'éthique du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Et pourtant, un peu plus tard, le Père est amené à dire aux disciples, écoutez-le. Parce que finalement, on entend, on dit, ça passe, ça rentre par là et ça ressort par là. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Seigneur nous invite vraiment, je dirais, à l'écouter. Il est vrai que l'écoute, probablement que c'est quelque chose d'essentiel. On en a déjà parlé un petit peu il y a quelque temps, j'en avais déjà parlé en parlant du silence spirituel. Je m'excuse peut-être de me répéter, mais je vous livre quelque part ce qu'il y a sur mon cœur. On a dans l'Écriture aussi un jour des gens qui viennent voir Jésus pour un petit peu le piéger, les Sadducéens, les Pharisiens. Et donc un jour, il y en a un qui vient vers lui et qui dit à Jésus, quel est le premier de tous les commandements ? Et Jésus va répondre, voici le premier. Ça commence comme ça. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ta force, de toute ton âme, pardon, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, dira Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Remarquez avec moi que Jésus, en citant l'Écriture, n'oubliera pas de dire, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça commence par écoute. Allô ? Ça commence par écoute. C'est bien. La première des choses et le premier des commandements, si on s'arrête à ce que Jésus nous dit, c'est écoute. Parce que tant qu'on n'écoute pas, on passera nécessairement à côté de ce que le Seigneur peut vouloir précisément pour nos vies. Est-ce que Judas, frères et sœurs, a écouté ? Malheureusement, non. Pourtant, il était à côté du Fils de Dieu. Et la Bible atteste aussi, et Jésus le dira à certains moments, il dira « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Et là, évidemment, qu'il parle de cet immense privilège qui a été donné aux hommes de la génération de Jésus et des disciples en particulier qui ont eu ce privilège extraordinaire d'être aux côtés de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et de pouvoir l'entendre, on va dire, quasiment à souhait. Ils avaient envie d'entendre parler Jésus, il suffisait d'aller le voir. Il parlait, il enseignait, il donnait sa parole. Et puis il l'a donnée de manière générale, il l'a donnée aussi de manière individuelle. C'était Dieu sur terre, frères et sœurs, un cadeau merveilleux. Et en même temps, une immense responsabilité. Parce que entendre le Seigneur nous parler, ça sous-entend quand même que quand on a entendu, on a entendu. Quand Dieu nous a parlé, il nous a parlé. On ne peut pas ignorer, on ne peut pas se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, je ne savais pas ». C'est un avantage parfois de ne pas savoir. Et dans l'Écriture, on a des passages qui révèlent bien que celui qui ne sait pas quelle était la volonté de Dieu et qui donc ne l'a pas fait sera puni de moins de coups que celui qui savait et qui ne l'a pas fait. Vous voyez ? Mais en même temps, ça serait quand même tragique qu'on préfère ne pas entendre le Seigneur nous parler en se disant comme ça, moins j'en sais et moins je me ferai frapper. Et le Seigneur ne veut pas nous frapper, évidemment. Il veut nous élever. Et donc, plus on va en savoir, plus on va en recevoir, et plus on va aussi normalement pouvoir s'élever, frères et sœurs, dans les choses de Dieu, et grandir dans les choses de Dieu. Dieu nous veut vraiment à l'écoute de sa voix, de sa pensée, de sa parole. J'aime bien Sylvain qui était présent avec nous, c'était le jeudi soir, et il nous a dit ceci, vous savez, moi je ne suis pas un homme de prière. Alors, c'est surprenant quand même. Il dit non, enfin, je passe du temps avec Dieu, bien sûr, mais la plupart du temps que je passe avec Dieu, je le passe dans le silence et dans l'écoute. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, qu'on n'a pas de prière à faire, bien au contraire, le Seigneur nous invite à le faire, mais il doit y avoir aussi dans notre vie cette place importante à l'écoute de ce que Dieu nous dit personnellement, à l'écoute de la volonté de Dieu pour nos vies. C'est vraiment extrêmement important, parce que c'est ce qui conditionne nos progrès. Si on n'entend pas, si on n'écoute pas, on n'avance pas. C'est pas compliqué, on n'avance pas, on peut pas avancer, ou difficilement. Alors pour nous, aujourd'hui, on n'a pas, cette expérience de voir la gloire de Jésus comme ça, comme les trois disciples l'ont vu, on n'a pas cette vision de Jésus, on n'a pas non plus la présence de Jésus comme les disciples l'ont eu, avec cette parole à souhait, il suffisait qu'il le questionne pour avoir des réponses. Nous, on n'a pas toujours, on n'a pas ça. C'est pas, je dirais, à notre disposition. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, écouter le Seigneur Jésus-Christ? Comment on peut mettre en pratique cette parole de Jésus, du Père, écoutez-le? Assez simplement, on a évidemment tout l'enseignement de la Bible qui nous est donné ici. C'est quand même là qu'on a la révélation. Et c'est au travers de cette méditation de la parole qu'on va tirer, la substance de la parole de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Ça va passer forcément par ici. Donc il y a toute cette phase, ce lieu pour nous de cette écoute de la parole, cette méditation de l'Écriture. C'est au travers de ça qu'on va pouvoir mettre en pratique cette parole, écoutez-le. Ensuite, on a aussi dans cette même Écriture cette parole qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs spirituels, parce que c'est eux qui vous conduisent dans les chemins de la vie et ils devront rendre compte de votre âme. » Et là aussi, ça me paraît important. On n'a pas toujours, les gens ne prennent pas toujours le temps de méditer cette parole, de l'écouter, de l'étudier, de la lire, ce qui est dommage. Mais Dieu, en plus, dans sa bonté, a placé des responsables spirituels, un conseil d'église, entre autres, des hommes et des femmes qui sont éclairés aussi, qui connaissent cette parole. Et il est bon, j'ai envie de dire, tout simplement, de les écouter, non? Allô? Vous êtes d'accord avec moi? Quand un responsable spirituel vous donne un conseil, probablement que ce conseil vient aussi de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu. Et qu'en conséquence, il est bon d'obéir tout simplement. Écouter Jésus, ça va passer parfois par simplement le fait d'écouter aussi les responsables, parce que c'est comme ça que le Seigneur aussi s'occupe de nous. C'est bête ce que je vous dis, non? Mais c'est simple, écoutez-le. Et quand on écoute un responsable qui nous donne un conseil sur notre vie, sur les choix de nos vies parfois, parce que des fois on a combiné les choses de telle manière que ce n'est pas tout à fait comme il faudrait, on ne va pas se faire fracasser. Mais si on a la sagesse d'écouter un responsable, alors on va mettre en pratique cette simple parole de Dieu, écoutez-le. Et puis on a aussi parfois ce privilège d'entendre le Seigneur nous parler. Je dis bien parfois, ce n'est pas tous les jours, je pense. Quoique, peut-être pour certains, mais cette parole précise du Seigneur. Et on a tout intérêt dans ces cas-là, vraiment à mettre en obéissance ce que le Seigneur lui-même nous dit. On a dans la Bible plein de passages, mais suivre Jésus et suivre cette parole précise de Jésus, c'est pas toujours facile. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, les disciples vont dire, « Seigneur, où est-ce qu'on va te préparer la Pâque ?» On entre bientôt dans cette période-là.
Et Jésus va leur dire, vous allez aller à la ville, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre, et quel que soit le lieu où il va entrer, vous direz au maître de la maison, le maître dit, donc, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Ça va ? C'est pas facile à obéir à un truc pareil. Imaginez que vous posiez une question au Seigneur, puis le Seigneur vous dit, bah, tu vas aller dans telle rue là, tu vas frapper à la porte, hein, puis tu vas dire, voilà, le maître demande où est-ce qu'on va faire la Pâque dans ta maison. Ouh ! On aurait un petit peu d'appréhension, un petit peu de timidité probablement, non ? Obéir au Seigneur, que ce soit dans le comportement ou dans des choix parfois un petit peu particuliers, c'est pas si simple que ça. Je vous donne un exemple, tiens, il m'en vient à l'esprit. Ça va un peu dans ce sens-là. Un exemple. On était sur le point de se marier avec mon épouse. Je ne sais pas si je l'ai raconté. Si je me répète, pardonnez-moi, mais on était sur le point de se marier. On cherchait en fait une salle pour se marier. On était parti au départ sur l'idée d'une location de salle et puis de faire un buffet, etc. Donc on arrive dans la ville des parents de Rachel, à Proville. Il y avait un endroit, ça s'appelait le Castel, c'était une sorte de manoir, on va dire comme ça. On rentre dedans et puis on se renseigne. Et puis c'était deux salles qui étaient contiguës, c'était pas extraordinaire si vous voulez. Le cadre n'était pas trop moche. Mais l'intérieur n'était pas exceptionnel, et puis c'était surtout pas pratique, et puis au passage, c'était quand même cher. On a vu les tarifs, c'était cher. Bon, là-dessus, on quitte les lieux, et en même temps, on prend conscience du prix du marché, si vous voulez. Moi, dans mon cœur, j'avais une conviction d'aller au château de la Motte, qui était pas loin de l'église à Cambrai. Vous voyez, on passe du petit manoir, cher, et le Seigneur me dit, en substance, dans mon cœur assez clairement, va au château de la Motte. On était en jean, vous savez, c'est classe le château de la Motte. Vous voyez, vous êtes reçu, c'est vraiment le truc top quoi, tip top quoi. Et va au château de la Motte, ma bagnole, c'était une petite voiture pourrie, pas propre ce jour-là, on n'était pas habillé, on était là en train de chercher un truc, on était loin d'être classe, c'était limite quoi. Et puis, je dis à Rachel, écoute, voilà, j'ai cette conviction, et je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Parce que ça craint. On se dit, après tout, ça coûte rien, on y va. On y va, on obéit au Seigneur. Et on est parti là-bas, bonjour, ça fait bizarre. Des gens très très bien habillés, puis voilà, on était un peu dans nos petits chaussons, puis on vient, on vient se renseigner, c'est pour un mariage, etc. Très bien accueillis, on va dans un petit salon très classe, ils nous ouvrent un peu leur dossier, leur machin, puis on se rend compte qu'en fait que la prestation qui nous est offerte à cet endroit-là est 10 fois supérieure à celle qu'on pouvait avoir de l'autre côté, et elle était du genre 2 fois moins chère. Et donc on s'est marié à cet endroit-là, non seulement nous, mais aussi beaucoup d'autres, parce qu'on a filé l'adresse après aux autres. Vous voyez, le Seigneur, lui, il connaît et il sait, ça c'est un détail pratique, c'est chouette, c'est bon, Dieu bénit, mais parfois obéir à cette voix du Seigneur, et il m'est arrivé de l'entendre et honnêtement de ne pas le suivre, et je le regrette aujourd'hui, hein, des fois c'était des témoignages qui sont dans l'autre sens, on passe aussi à côté, hein, ça nous arrive, forcément. Mais il est bon d'obéir au Seigneur. Alléluia. Et cette voix du Seigneur, elle nous guide, elle nous conduit. Essayons de tout faire pour l'écouter et la mettre en pratique. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Et je vais terminer ici avec ça. Mon message, il est simple ce matin, mais je pense qu'il vient du Seigneur. Je crois que le Seigneur, il attend qu'on soit déjà en phase avec notre propre conscience. Dire, je suis assez convaincu qu'il y a des choses qu'on sait déjà de ce que Dieu nous a dit ou de ce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Puis la question, c'est finalement, est-ce que tu écoutes le Seigneur sur ça ? Voilà, sois en phase déjà avec ta propre conscience. Si tu sais au fond de toi que ça, telle ou telle chose dans ta vie, ça doit changer, ben, j'ai envie de dire, mon ami, mon frère, ma sœur, obéis au Seigneur. Écoute-le. Non ? C'est peut-être difficile, mais écoute-le. Agis selon la conscience que tu as de ce que Dieu t'a déjà dit. Écoute-le. Les disciples, ils avaient déjà beaucoup entendu Jésus. Un point qui est revenu sur mon cœur en préparant, et ça fait partie des choses importantes, il y en aurait beaucoup d'autres, et je ne veux pas limiter ce temps on est amené à se questionner sur nos vies, seulement ce point-là. Mais il y a un point qui revient et que j'aimerais mentionner aussi, c'est l'importance du pardon, frères et sœurs. L'importance du pardon. Hein ? Parfois, on sait, au fond de soi, qu'on doit pardonner à l'autre, ou qu'on doit demander pardon à l'autre. On le sait, le Seigneur nous l'a dit déjà, ou on le ressent tout simplement. Écoutez-le, ça va être de dire, bah, Seigneur, ok, je prends conscience que j'ai besoin de pardonner. Et donc, Seigneur, bah, je veux m'y appliquer. C'est pas évident. Ça peut être difficile dans certains cas, mais je veux m'y appliquer. Parce que c'est ta parole. C'est t'écouter toi, ça sera concrètement faire cette démarche de pardonner ou de demander pardon dans certains cas. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite au Collège biblique de Bruxelles. C'était avec un ami, Victorin, un ami. Et cet ami-là, il avait à un moment donné des soucis un petit peu de cœur intérieur, on va dire. Voilà. Et j'avais passé du temps avec lui dans sa chambre et simplement à partager et puis à l'entourer, quoi, amicalement. Et puis donc, on avait parlé de beaucoup de choses, de ce qu'il traversait, de ce qu'il vivait. Puis forcément, l'échange, il y avait des conseils un petit peu du Seigneur qui étaient là. Puis ce jour-là, on avait une réunion de prière le soir avec Anita Pierce, qui était de passage aussi au Collège biblique de Bruxelles. Et ce soir-là, Anita Pierce, franchement, j'avais l'impression qu'elle avait été dans notre chambre avec nous, parce que tout ce qu'elle disait... Elle reprenait quasiment mot pour mot les conseils qui avaient été donnés dans cet échange avec cet ami Victorin. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, franchement, Seigneur, t'es merveilleux, quoi, c'est super. Vraiment, là, il a vraiment des confirmations, quoi. Et là, dans ma joie, à la fin de la réunion, dans ma joie, je vais le revoir, la réunion terminée, tout le monde rentré, je vais revoir mon ami dans sa chambre, dans ma joie, pour lui dire, hey, t'as vu ? Comment le Seigneur a été bon. Et là, quand je suis rentré, là, j'avais quelqu'un qui était devenu farouche et qui m'en voulait terriblement et qui m'a quasiment mis dehors. Et là, je peux vous dire, j'étais mais profondément blessé. Profondément blessé. J'étais venu avec la joie, avec l'huile et le vin pour soigner la plaie. Et j'ai eu en face de moi quelqu'un qui s'est cru poursuivi, qui s'est cru mal aimé, qui s'est cru tout ce qu'on veut, et qui, en fait, peut-être probablement que justement le Seigneur était en train de toucher les choses vraiment au niveau de son cœur, et puis que ça allait un peu trop loin, et que, oh, c'est bon, quoi, maintenant lâche-moi, hein. Je veux pas aller jusque-là. Il y avait un peu de ça. Et moi, à ce moment-là, mon petit cœur à moi, j'avais 18 ans, mon petit cœur d'ami, parce que j'étais vraiment un ami, je le suis toujours, a été, mais vraiment profondément blessé. Je suis rentré dans ma chambre, j'étais mais comme poignardé, c'est pas grand-chose pourtant. Hein. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire pour être blessé. Profondément blessé. Et au point que, dans mon cœur... Sincèrement, je me sentais mais vraiment incapable de lui pardonner. Incapable. Je m'en sentais vraiment pas la force. Trop déçu. À qui c'est arrivé d'être déçu ? Ah bah tout le monde, hein. C'est la vie, hein. Et alors, je vais dans la présence du Seigneur, et puis je commence à dire, et ça c'était une bonne chose, je commence à ouvrir mon sac à Dieu. en premier. Je dis à Dieu, Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a fait ? Et pendant une heure et demie, je ressassais ce problème-là et je ressortais à Dieu, mais Seigneur, mais t'as vu ce qu'il m'a fait ? T'as vu ? Et puis, je disais à Dieu ma douleur, je disais à Dieu ma peine, je disais à Dieu ma déception, tatati, tatata, etc. Et c'était bien de le faire comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est que le Seigneur, dans sa bonté, m'a parlé. Vraiment, c'était un cadeau du Seigneur, un cadeau. Comme je le dis, ça ne m'arrive pas tous les jours, hein. Croyez pas ça. Ce n'est pas parce qu'on témoigne que ça arrive tous les jours. Et là, je dis, Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait ? Je suis venu avec l'huile et le vin. Et puis, tu as vu que... Et j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit ceci. Et toi, Matthieu, combien de fois tu me l'as fait ? Babam. Oh oh. Et là, j'ai pris conscience à ce moment-là d'un truc que je ne m'attendais pas du tout et que je ne pensais même pas. J'ai pris conscience qu'à bien des reprises, probablement d'ailleurs de manière inconsciente, quand le Seigneur voulait s'approcher de moi pour me parler, pour me conduire, pour me guérir, pour me transformer, « Oh Seigneur, oh hé, hey, tu vas un peu trop loin là. » Inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, mais on met pas mal de barrières en réalité. Et là, j'ai pris conscience que moi aussi, je faisais la même chose à l'égard du Seigneur et que le Seigneur me pardonnait. « Matthieu, combien de fois tu me l'as fait ?» C'était l'air de dire, moi, si je devais mettre des calculs sur un papier, purée, franchement, ça fait des tonnes. Et là, j'ai pris conscience que Dieu me pardonnait. Et donc, j'ai trouvé la force aussi, naturellement, merci Seigneur, pour vraiment pardonner celui qui m'avait blessé. Et intérieurement, au fond de moi, à ce moment-là, je peux dire que j'avais vraiment pardonné à Victorin. Dans mon cœur, c'était fait. Et ça s'est vu parce que, concrètement parlant, mon attitude avec lui, c'était comme si lui, certes, il avait besoin certainement de demander pardon, parce qu'il avait mal agi, mais moi, dans mon cœur, j'étais, relationnellement parlant, j'étais libre avec lui. J'étais capable de lui faire du bien, alors qu'avant ce pardon intérieur, j'aurais pas été prêt à lui faire du bien. J'étais pas prêt pour le faire, je pouvais pas. Mais là, j'étais prêt à le faire. Et puis, dans l'espace de 2-3 jours, Victorin est venu me voir et m'a dit « Écoute, Matthieu, il faut que je te demande pardon, etc. » Et puis donc, je dis « Écoute, je te pardonne. » Et puis, c'était réglé. C'était une affaire qui était réglée. On est restés amis. On a collaboré encore avec le Seigneur pendant longtemps. Qu'est-ce que je veux dire en disant ce témoignage, frères et sœurs ? C'est que dans la vie, évidemment, il y a des petits coups, il y a des gros coups et il y a des blessures, quoi qu'il en soit. La blessure, peu importe l'offense, peu importe la vraie, peut-être, gravité de l'offense, si toutefois il y a une vraie gravité. Quand c'est grave pour toi, c'est que c'est grave. Quand tu as été blessé, c'est que tu as été blessé. Et donc, quand c'est comme ça, le Seigneur nous invite à pardonner. Amen. À pardonner. Le pardon, c'est pas une émotion, c'est une décision. Un jour, on parlera du pardon plus longuement. Le pardon, c'est un choix. Je choisis de pardonner. Voilà. Et à partir du moment où on fait cette démarche-là, on entre dans l'obéissance de ce que le Seigneur nous dit. Écoutez-le. Alors peut-être ce matin, hein, tu sais au fond de toi qu'il y a un pardon, ou peut-être même des pardons, à accorder, à donner, dans ton cœur, aux autres. J'ai envie de dire, fais-le. Fais-le. Ne tarde pas. N'attends pas le déluge. Non ? Fais-le. Fais-le tout simplement, j'oserais dire, ce matin, fais-le. Va voir ton frère, va voir ta sœur en Christ, et puis parle avec. Et puis libère ton cœur, et puis pardonne et demande pardon si nécessaire. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous invite au pardon réciproque. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, ça sous-entend que ça arrive. Hein. On aimerait bien que ça n'arrive pas, frères et sœurs, non ? Mais on est sur terre. Et y compris dans l'Église, comme dans toutes les familles, y a des tensions. Il y a parfois des histoires, plus ou moins graves, mais il y a quand même, c'est des choses qui sont de la terre, que Dieu ne souhaite pas, mais qui sont là, qu'on le veuille ou non. Et nous, on doit les gérer, on doit apprendre à les gérer. On doit s'en sortir avec ça. Et pour s'en sortir, ça passe par le pardon. Et souvent, c'est le pardon réciproque. Si je t'ai blessé, je te demande pardon. Ce n'était pas mon intention. Et puis, tu m'as blessé, ben, je te pardonne. Amen. Tout simplement, écoutez-le. Alors, ce que je vous propose de faire, sans plus tarder, ben, c'est de prier un instant, c'est de prendre quelques minutes de silence hein, dans cette présence du Seigneur. Puis, dans un premier temps, peut-être, si vous savez dans votre cœur que voilà, il y a des choses que Dieu vous a déjà dites, sur le « écoutez-le », eh bien confessez au Seigneur, tout simplement, ces choses. « Oui, Seigneur, je sais que tu m'as demandé ça. Je sais que tu me demandes telle ou telle chose dans ma vie, dans mon comportement, dans mes choix. » Et alors, Seigneur, ben, je viens te demander pardon d'une part, puis je viens te prier pour que je puisse pratiquer ta parole. Alors, je vous invite à vous mettre en présence du Seigneur, à écouter votre propre cœur, écouter le Seigneur dans votre cœur, et tout simplement à vous mettre au plus profond de vous-même en règle avec Dieu. C'est une bonne chose, c'est libérateur. Dans la parole de Dieu, on a un passage... On reste dans cette écoute du Seigneur. En même temps, je vous parle. On a ce passage de ces deux fils que le Père veut envoyer dans la vigne. Il y en a un qui dit oui et il y en a un qui dit non. Et celui qui dit oui, finalement, n'y va pas. Et puis celui qui dit non, au final, il y va. Et ce qui compte pour Dieu, c'est finalement ce qu'on va faire. Et Jésus va dire, lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ben, c'est celui qui a dit non au début, mais qui a fini par le faire. Et voilà, ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'on va aussi concrètement faire. Écoutez-le, ça veut dire concrètement faire ce que le Seigneur indique. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi. Nous nous présentons, Seigneur, devant toi. Et Seigneur, dans ces temps, Seigneur, nous voulons nous mettre, Seigneur, au diapason de ta parole dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et puis dans un deuxième temps, moi, je vous invite ce matin, c'est un peu l'avantage que j'ai en venant une fois de temps en temps. Je vous invite à vous pardonner réciproquement. Si vous savez, si vous sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose contre quelqu'un, bah allez le voir. Réconciliez-vous. Parlez. Pardonnez-vous. Ça, c'est vraiment mettre en pratique la parole du Seigneur. Et je vous invite à le faire. Alléluia. Si la personne est ici, ben, profitez du temps qu'on va avoir peut-être tout à l'heure pour le faire. Si la personne ou les personnes ne sont pas là, ben, prenez contact avec. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, chacun à savoir nous réconcilier, à savoir nous pardonner, Seigneur. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes comme bloqués, fermés, comme ça a été mon cas. Merci parce que tu nous aimes, tu nous connais tels que nous sommes, Seigneur, et tu viens aussi, toi, nous aider. Et je prie que l'aide du Saint-Esprit nous soit aussi accordé ce matin à chacun, pour que, Seigneur, dans ces démarches, nous soyons pas tout seuls, que nous soyons portés par toi, Seigneur. Aide chacun d'entre nous par ta puissance à être libérés, Seigneur, de ces entraves, parfois relationnelles, qui sont là, Seigneur. Libère nos cœurs, on l'a chanté, Seigneur. Libère les captifs. Seigneur, libère nos cœurs pleinement, Seigneur, afin que nous soyons libres devant toi, Père, dans le nom précieux de Jésus. Je te prie, Seigneur. Amen.